Pour conclure cette semaine estivale, marquée par la douceur et la suavité, un programme vintage, initialement diffusé le 5 août 2015, qui vous plongera dans une ambiance tropicale et raffinée à la fois. We'll be right back. Permettez-moi cette confidence. Diffuser cette chanson à la radio l'été à une heure de grande écoute était inconsciemment, je crois bien, une des grandes ambitions de ma vie. J'ai découvert le groupe Steely Dan, que vous venez d'entendre dans Do It Again, ça remonte à 1972, à l'adolescence. C'est entre autres grâce à lui que j'ai ressenti pour la première fois ce qu'était l'élégance dans ce qu'on appelait encore la pop musique, un nouveau monde qui me fascinait mais où j'avais encore pratiquement aucun repère. Steely Dan était un groupe totalement étrange qui ne ressemblait à aucun autre. Ils avaient, vous l'avez entendu, un style jazz rock à la suavité toute californienne, enregistrant d'ailleurs l'essentiel de leurs albums dans divers studios de Los Angeles avec l'élite des musiciens de jazz locaux. Et pourtant, à la source, c'était un duo de juifs new-yorkais qui n'avaient vraiment pas la gueule de l'emploi. Longtemps, Donald Fagen, le chanteur et clavier du groupe, et Walter Becker, qui composait tous les deux les chansons, ont trimballé la réputation de groupe le plus moche du monde. Pendant des années, ils avaient vainement essayé de placer auprès de divers interprètes leurs chansons aux paroles grinçantes et sarcastiques, sans succès donc, jusqu'au jour où un jeune réalisateur artistique de New York, Gary Katz, les a pris sous son aile et a surtout eu l'idée géniale de les envoyer enregistrer à Los Angeles au légendaire Village. Alors je dis légendaire parce que ce studio, il est situé sur Santa Monica Boulevard, pas loin de la mer. C'était un ancien temple maçonnique qui avait été transformé en studio après avoir abrité un centre entre guillemets de méditation transcendantale. Le paradoxe de Steely Dan, c'est que ce groupe au son donc typiquement californien était à l'opposé de cet état d'esprit comme ça tourné vers le bien-être du corps et de l'esprit qui animait en apparence, je dis bien en apparence, le rock de la côte ouest. Alors déjà, le choix du nom, Steely Dan, ça venait d'un livre de l'écrivain William Burroughs, The Naked Lunch, le festin nu, et ça désignait un god miché, eh oui. Et puis alors les paroles de ce Do It Again à l'irrésistible rythme tropical évoquaient un personnage pas du tout sympathique, une sorte de marginal rongé par ses vices, drogue, sexe et jeux de hasard qui peut pas s'empêcher de remettre ça jusqu'à épuisement. Et vous l'avez entendu, c'est une chanson très dansante, suave, même agrémentée d'un solo, et oui, de sitar électrique, ce qui avait sans doute fait écrire à l'époque à un critique du magazine Time que Steely Dan avait la grâce sensuelle et sinistre d'un serpent probablement venimeux paraissant au soleil. Allez, on va quitter ces inquiétants parages et au loin se profilent les contours d'une étrange ville fantôme où siffle à nos oreilles une curieuse bise glacée.
This time. Very Good Trip sur France Inter.
Très jazz qui, aux oreilles de certains connaisseurs, pourrait évoquer ceux de Duke Ellington et pourtant fausse piste. Kiko and the Lavender Moon, c'était un album qui a été publié en 1992 par le groupe Los Lobos. Les Lobos, tout le monde les connaît ou croit les connaître. Pourquoi ? À cause de ce fameux tube de la fin des années 80, la Bamba, capable de faire se relever tout le monde à la fin d'une fête, y compris ceux qui ont enchaîné les vodkas écroulés sur un canapé. Mais la Bamba, c'est qu'une des facettes du groupe. Je peux vous assurer que de tous ceux que j'ai vus et entendus sur scène, c'est un des plus impressionnants. Ils savent tout faire, mais avec une classe absolument hors du commun. Ils ont déjà deux chanteurs exceptionnels, David Hidalgo et César Rosas. Rosas qui, en plus, est un guitariste de blues, d'un feeling et d'une intensité rare. Il faut dire qu'ils jouent ensemble depuis plus de 40 ans. Ils ont commencé à animer des mariages dans la communauté immigrée mexicaine à l'est de Los Angeles, dont ils sont originaires. Donc ils jouent déjà sur des instruments traditionnels, accordéon, barre au sexto, c'est une sorte de basse à 12 cordes, dans tous les styles des folklores mexicains, et il y en a beaucoup. Notamment, vous savez, ces chansons sur des bandits ou destins tragiques. Mais ils sont aussi capables de s'imposer de le rock'n'roll le plus pur qui soit, à l'énergie parfois punk. Ils ont d'ailleurs joué en première partie des Sex Pistols à Los Angeles. Ils sont capables aussi de jouer le blues électrique le plus viscéral, sans oublier un jazz parfois free à la manière de Tom Waits, le tout avec une aisance, une élégance et une sobriété tranchante, absolument sans pareil. Tout chez les Lobos est bon, il n'y a rien de médiocre, mais pour moi, leur chef-d'œuvre, c'est cet album de 1992, Kiko, dont je vous ai passé un extrait. Juste avant, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'était ce reggae très jazzy avec des chœurs un peu foldingues à la limite de la dissonance. Eh ben, c'était un titre du groupe anglais multiracial The Specials en 1981. Ghost Town, c'est le nom de la chanson, était sorti en 45 tours l'été de cette année-là après une vague d'émeutes qui avait éclaté dans le nord de l'Angleterre, notamment à Liverpool, où la communauté noire s'était affrontée à la police dans un contexte de récession économique et de déchirement du tissu social. Le leader et compositeur du groupe, Jerry Dammers, avait évoqué dans cette chanson le sentiment de désolation qu'il avait envahi quand il était passé en voiture dans ces quartiers sinistrés où beaucoup de commerces avaient fermé, et il avait trouvé cette image forte de Ghost Town, ville fantôme. La chanson avait été numéro 1 plusieurs semaines au Royaume-Uni, mais en France, les programmateurs de radio complètement sourds avaient estimé que la mode du ska, à laquelle les Specials étaient associés, était morte et enterrée. Et pourtant, quand vous écoutez cette chanson géniale, avec cette phrase de flûte un peu orientale au début, qui évoque les musiques que Nino Rota composait pour les films de Fellini, on se dit que vraiment, vraiment, il fallait être bouché pour ne pas être subjugué.
Thank you. dances all night long, playing cards and a rock and roll. The road's much too long, seems like I'm wasting my time. Wish I was home again, sipping my wine, and I'm gone, gone, gone. I don't care, 'cause I'm gone, gone, gone. I don't care, that's where I'm from, I'm on the road again. Who's red next coat? His eyes are moving, but there's no life showing. And I'm gone, gone, gone. I don't care, 'cause I'm gone, gone, gone. I don't care, it's where I'm from, I'm on the road again.
C'était le groupe Traffic, extrait de l'album The Low Spark of High Heeled Boys, sorti en 1971. Tout à l'heure, je vous parlais du groupe hispanique de Los Angeles, Los Lobos, et de son aisance et de son élégance dans tous les styles, du folk au jazz. Et bien, une dizaine d'années auparavant, le groupe anglais Traffic, c'était pareil. Traffic était né en 1967 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, à l'initiative d'un enfant prodige du rock anglais, Steve Winwood, alors qu'il n'avait même pas 19 ans. C'était déjà une star. Grâce à sa voix soul exceptionnelle, qui lui avait valu le surnom de Ray Charles anglais, il avait eu, figurez-vous, son premier tube, Keep on Running, fin 65, au sein de sa première formation professionnelle, le Spencer Davis Group, alors qu'il n'avait que 17 ans. Et comme à beaucoup de jeunes musiciens d'alors, le mouvement psychédélique venu de la côte ouest des États-Unis lui avait complètement tapé sur la tête. Il avait voulu tout changer, expérimenter, ouvrir de nouvelles voies, en associant d'une manière qui, même aujourd'hui encore, peut paraître incongrue, blues rock psychédélique, rhythmic soul, folk anglais et jazz. Ça paraît un peu délirant, et d'une certaine façon, ça l'était, Mais les deux premiers albums de Traffic que j'ai découverts alors que j'étais encore enfant gardent encore aujourd'hui une beauté, une magie et une poésie exceptionnelles. Traffic a eu une seconde vie au début des années 70 quand le groupe, notamment enrichi par le percussionniste ghanéen Rebop Kwakuba, s'est ouvert à des rythmes funky et tropicaux. Et le titre qu'on a entendu, Rock'n'Roll Stew, était chanté par le batteur du groupe, Jim Capaldi. Je me rappelle avoir vu Traffic à l'Olympia à Paris en 73. C'est un souvenir inoubliable, un concert très long, un voyage magique, une transe, soul, jazzy, où pour la première fois de ma vie, j'ai admiré des musiciens d'exception jouer dans une liberté totale. Il y avait, je me rappelle, une des meilleures rythmiques de l'histoire de la musique soul, celle des studios de Muscle Shoals hein, dans l'Alabama, celle qu'on entend notamment dans des classiques comme When a Man Loves a Woman hein, du regretté Percy Sledge. Et certains disaient alors, je me rappelle de Traffic, que c'était le Santana européen en plus fin et plus imaginatif, et c'était totalement vrai. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai diffusé juste avant Santana dans Oye Como Va, son grand tube de 1970, extrait de l'album Abraxas. À l'origine, une composition fameuse du roi du mambo, hein, Tito Puente, un New-Yorkais d'origine portoricaine. Alors maintenant, n'y voyez pas une farce de ma part, juste une coïncidence, parce qu'on va écouter un autre Santana, celui-là avec deux T, le Brésilien de Salvador de Bahia, Lucas Santana, dans un instrumental estival et très frais entre électro, folk, trans-tropical, super violent mashup, extrait de son album de 2009, Sem Nostalgia.
They seem so removed from romance. They've been broken in churches and schools and molded to middle class circumstance. And we were rolling, rolling, rock and rolling. Downtown, the dance halls and cafes feel so wild you could break somebody's heart just doing the latest dance craze. Under bridges, kissing in cars, kissing in cafes. And they were walking down Main Street, kisses like bright flags hung on holidays. In fancy kiss on Main Street, amour, mama, not cheap display. And we were rolling, rolling, rocking.
Sayas.
Mon cœur te dit de l'art.
Alias Souza, sans doute une des chansons les plus connues de Véronique Sanson, un tube il y a 40 ans, en 75. Véronique Sanson était alors une des rares musiciennes françaises à se fondre très naturellement dans ce groove cool et jazzy qui n'était pas seulement californien d'ailleurs, mais aussi, ça s'entend, brésilien. Alors l'histoire est connue, mais enfin je la rappelle, en 1972, tout juste âgée de 23 ans, Véronique Sanson a un coup de foudre à Paris pour un musicien américain qu'elle croise dans les bureaux de sa maison de disques. C'est Stephen Stills, hein, connu pour son association fameuse avec David Crosby, Graham Nash et Neil Young. L'année suivante, elle quitte Paris et sa vie avec Michel Berger, épouse Stills et le suit à Los Angeles. À l'automne 74, elle va enregistrer avec son aide l'album Le Maudit. C'est le plus rock de tous ses disques. Il est marqué par la participation d'une équipe de musiciens de jazz rock d'une grande finesse, notamment le percussionniste Joe Lala, collaborateur de Stills, mais aussi par une rythmique qui s'est illustrée en accompagnant le chanteur James Taylor, soit le bassiste Leland Sklar et le batteur Russ Kunkel. Juste avant, on a entendu Joni Mitchell, la chanteuse canadienne, dans In France, They Kiss on Main Street. En France, ils s'embrassent en pleine rue. C'est la chanson par laquelle débute son album le plus jazzy, paru la même année, 75, la même année que Le Maudit. The Hissing of Summer Lawns, enfin les Américains disent plutôt Lawns, le sifflement des pelouses en été, peut-être qu'en vous penchant un peu par la fenêtre, vous pourrez l'entendre de là où vous êtes. En tout cas, il y a toujours dans la musique de Joni Mitchell une grande part d'originalité et d'invention. Et c'est d'ailleurs pas par hasard si elle a servi de modèle à nul autre que Prince. Et oui, ça vient peut-être en partie, enfin je sais pas, de son parcours assez singulier. Joni Mitchell, qui s'appelait Anderson, a grandi dans une région très rurale du Saskatchewan, c'est dans les prairies canadiennes. Elle a été nourrie au jazz par ses parents. Elle a été aussi initiée à la musique classique du XXe siècle, Debussy, Ravel, Stravinsky. Sauf que quand elle a appris le piano classique, elle s'est révoltée contre son professeur et elle a décidé de ne jouer que à l'oreille. Alors c'est pas tout, parce que comme elle avait été frappée enfant par la polio, elle en a gardé une infirmité à la main gauche, ce qui l'a poussée à inventer ses propres accordages à la guitare pour ne pas trop fatiguer sa main. Joni Mitchell était vraiment une rebelle, passionnée de rock'n'roll, puis de folk contestataire. Elle a quitté l'école à l'adolescence, elle a fréquenté un milieu de délinquants à Toronto, elle a trouvé un travail dans une fabrique de vêtements, elle a été chanteuse de rue, elle a eu très jeune une fille qu'elle a abandonnée, elle est passée par Londres à la grande époque psychédélique, et puis elle a atterri à la fin des années 60 à Los Angeles, dans le quartier bohème de Laurel Canyon, où elle a été tour à tour la fiancée de David Crosby, de Graham Nash, de Neil Young et de Leonard Cohen. Voilà. Alors on parlait de Véronique Sanson, on va retrouver l'homme pour qui elle avait tout quitté, Stephen Stills, dans Song of Love, extrait du premier album de son groupe Manassas, paru en 1962. And it's all...
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Fazone, c'était Jonathan Wilson, un cas très original et en même temps révélateur du rock d'aujourd'hui. Comme il est né il y a 41 ans, en 74, hein, au sud de la côte Est, qui plus est, Jonathan Wilson n'a évidemment pas pu connaître la grande époque du rock californien planant et psychédélique. Et pourtant, c'est devenu son obsession. Ce multi-instrumentiste, très aguerri, a fait d'ailleurs du mode de vie hippie son quotidien, puisqu'il voyage de communauté en communauté à travers les États-Unis. Il a accompagné la chanteuse soul jazz Erykah Badu, comme Elvis Costello. Il a installé, à la fin des années 2000, à Laurel Canyon, dans cette banlieue de Los Angeles, où à la grande époque post-hippie vivaient tous les grands artistes de l'époque, notamment Crosby, Stills, Nash & Young, un studio d'enregistrement aux équipements vintage analogiques. Il l'a récemment transporté à Echo Park, c'est une autre partie de Los Angeles, et il a publié récemment, sous son nom, deux albums absolument mais splendides, splendides de liberté, de musicalité, où c'est très très varié. Il fait même collaborer au dernier certains de ses héros, comme Graham Nash. J'ai dû écouter, et je vous assure que je ne vous mens pas, cet album une cinquantaine de fois depuis sa sortie. Je peux vous affirmer que je ne m'en suis jamais lassé. Achetez-le, téléchargez-le, faites ce que vous voulez et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer, vous non plus. Bon, on va écouter pour se quitter, une chanson très suave, fraîche et estivale des Beach Boys en 71, c'est Feel Flows, extraite de l'album Surf's Up. C'est une période qui n'est peut-être pas la préférée des passionnés du groupe parce que le leader Brian Wilson absent est l'ombre de lui-même à ce moment-là, mais je voulais quand même rendre hommage à son frère cadet, Carl Wilson, tristement mort il y a plus de 15 ans aujourd'hui, qui était devenu par la force des choses le patron des Beach Boys et avait donné au groupe une inflexion soul et parfois même un peu funky. Time. Record all the yearning. Et voilà, Very Good Trip, c'est terminé pour ce soir, c'est terminé pour cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi prochain et tout de suite après les informations, eh bien vous retrouverez l'excellent Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. À lundi.